France Musique.
Bonjour à tous, bonjour Émilie.
Bonjour Rodolphe. Eugène Isaïe au violon ou encore des instruments à vent, ça ce sera Richard Strauss.
Et Bach au saxophone, c'est tout de suite. Étonnant, n'est-ce pas? Alors, on le sait, Bach accepte tout, sans doute parce qu'il faisait tout, de la transcription à l'imagination. Alors évidemment, il n'a pas connu le saxophone, mais il aurait sans doute été fasciné par cet instrument, surtout le son chaud et chaleureux du saxophone baryton, dont Mathieu Delage est l'un des excellents interprètes. Un disque Bach au saxophone, un disque réjouissant tout en étant étonnant. Bach des Préludes et Fugues, vous venez d'en entendre un, jusqu'aux Variations Goldberg, Bach dans tous ses états. Alors, transcription, certes, ce qui en soi n'est pas forcément original, mais ce qui est réussi, c'est que Mathieu Delage ne renonce pas à l'identité de son instrument, le saxophone, une identité marquée aussi par le jazz, vous l'avez entendu ici avec guitare électrique par exemple, Benjamin Garçon à la guitare. Il ne renonce pas à la modernité, à la recherche de sonorité, ce à quoi est voué finalement le saxophone. Donc ça marche plutôt bien et même très bien, Bach par Mathieu Delage. Prélude numéro 3 par Mathieu Delage. Alors vous avez entendu aussi, le saxophone n'est pas seul, il y a toute une ribambelle d'amis sur ce disque. Mais de temps en temps, quand même, la belle solitude du saxophone qui imite ici, enfin pas qui imite, mais qui reprend les partitions pour violoncelle, ça donne ceci. Quel est cet instrument? Eh bien, c'est le saxophone baryton, interprété ici par Mathieu Delage pour ce disque Bach. Un bien beau disque.
On va aller, alors là, vous étiez vraiment avec un seul instrument, enfin,
oui,
deux au maximum.
Et pas n'importe lequel.
Et pas n'importe lequel. Et là, nous avons l'orchestre entier avec une intégrale, la suite d'une intégrale Sibelius menée par Yannick Nézet-Séguin à la tête de son orchestre canadien métropolitain. C'est un orchestre à qui il reste fidèle depuis 23 ans. Il a commencé sa discographie avec lui en 2003.
Pour un petit label en plus, c'est ça qui
Atma,
est
un label
qui est
canadien,
beau.
Absolument. Et il dit qu'il s'est développé comme artiste avec eux et donc il ne veut pas les laisser et deux des plus. Et aujourd'hui, il enregistre deux des symphonies les plus populaires de Sibelius, la deuxième et la cinquième, qui sont écrites à une quinzaine d'années d'écart. Et c'est amusant parce que le chef disait aussi de Classiceo qu'il avait toujours eu des affinités avec Sibelius. Et il pense que c'est peut-être parce qu'il vit dans des grands espaces, comme en Finlande. Il dit que finalement, le Canada, la Scandinavie le Québec se ressemblent beaucoup. Et que ça, peut-être que ça l'inspire quand il joue. Alors, on va écouter la deuxième symphonie. En l'occurrence, c'est pas forcément les grands espaces canadiens ni scandinaves, puisque la symphonie a été écrite par Sibelius après un voyage en Italie. Mais bon, en tout cas, c'est une œuvre qui plaît également à Yannick Nézet-Séguin, qui l'enregistre avec son orchestre métropolitain. La deuxième symphonie de Sibelius avec l'orchestre métropolitain dirigé par Yannick Nézet-Séguin. C'est donc le nouveau disque, la suite de cette intégrale qu'il enregistre avec son orchestre canadien pour le label Atma Classique, avec deux grandes symphonies, la deuxième et la cinquième.
France Musique, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Alors Émilie, de temps en temps dans cette émission, on aime bien vivre une expérience, c'est oui. Pas tous les jours.
Non, c'est vrai, mais parfois ça nous arrive, surtout à vous.
Oui, enfin, qu'il est vive ou qu'il est...
Vous me faites vivre des expériences,
voilà.
Ça va
alors,
dire.
Celle-ci est magnifique, celle que je vous fais
oui,
vivre.
Oui, c'est ce que je vois.
Elle s'appelle Eternity, c'est le dernier disque de Gulru Enzari et de Herbert Schur. C'est le duo Enzari-Schur. Je pense que vous connaissez ces musiciens qu'on a découverts séparément, notamment Herbert Schur, qu'on a beaucoup diffusé dans cette émission. Des musiciens qui sont donc mariés à la vie et qui ont découvert le piano à quatre mains une fois mariés et une fois vivant ensemble. C'est mignon.
Oh oui, c'est bien, voilà. c'est, je comprends en même temps.
Et parce qu'avant, ils avaient des carrières séparées, ils n'avaient jamais joué ensemble. Et c'est en vivant sous le même toit qu'ils ont découvert le piano à quatre mains et une œuvre, et pas n'importe quelle œuvre, la fantaisie de Schubert, fameuse fantaisie de Schubert, sublime, 20 minutes de musique, un des derniers opus du compositeur. Et une pièce qu'on a toujours du mal à diffuser dans cette émission, un peu comme la sonate de Liszt, parce qu'on est obligé de la couper. Et bien aujourd'hui, cette expérience, j'ai décidé de ne pas la couper. Et de vous faire vivre les 19 minutes de cette incroyable fantaisie de Schubert. Thank you.
Thank you.
La fantaisie pour piano à quatre mains de Schubert, interprétée par le duo Ensari-Schur. Allez voir sur notre site internet pour retrouver les références de ce disque publié par le label Naïve. Et j'aime bien cette version de cette fantaisie de Schubert que je trouve assez volcanique, orageuse, qui n'a rien du tout d'une petite romance. C'est une grande tragédie qui se joue ici pendant cette fantaisie. Et on se disait avec Émilie que, contrairement à d'autres œuvres de Schubert où les thèmes reviennent souvent, il y a beaucoup de répétitions. Ici, il y a quelque chose d'un peu organique qui avance tout au long de l'œuvre.
C'est avec pas les des divines thèmes longueurs.
Avec des thèmes qui reviennent, mais jamais pareils.
Ça se réinvente toujours.
Quelle œuvre incroyable que vous avez entendue en ce 2 avril à 9h20.
Eh bien, si on célébrait cette œuvre avec un Magnificat, voilà ce que répondrait Sarti à Schubert. Il était l'un des musiciens qui connaissait le mieux tous les secrets de son art, disaient ses contemporains. Personne ne compose des chœurs mieux que lui. Lui ajoutait à l'impératrice Catherine II, toutes ses mélodies sont pleines de charme et de tendresse, concluait son élève Cherubini. Il s'agit de Giuseppe Sarti, ce compositeur italien, qui aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de ce musicien qui a eu beaucoup de succès à son époque, était globe-trotteur avant l'heure, puisqu'il a eu des postes en Italie, à Vienne et à Venise et à Milan notamment, à Copenhague, à Saint-Pétersbourg. Il est passé par Londres, à Vienne où il a rencontré Mozart. C'est un compositeur dont la musique s'est nourrie de tous ses voyages et qui a beaucoup composé, alors surtout des opéras. Aujourd'hui, ceux qui aiment l'art lyrique connaissent encore son nom. Et puis quelques pages de musique sacrée, comme nous le fait entendre ce disque qui date de 2012, qui est dirigé par Mattia Rondelli et qui est aujourd'hui réédité par le label Sony. Il y a le Magnificat que vous venez d'entendre et le Gloria, puisqu'il écrivait les cœur comme personne, nous disait Catherine II. En voici un exemple dans le cœur d'ouverture du Gloria. Thank you. Le chef italien Mattia Rondelli aime la musique de Giuseppe Sarti qu'il a enregistrée avec le chœur et l'orchestre Mariinsky en 2012. Barbara Frittoli et Katerina Semenchuk, Dmitri Voropaïev et Yuri Vorobiev. Il y a le Gloria de Sarti et le Magnificat à redécouvrir. Le disque à gagner.
Mais oui.
Les itinérantes origines, c'est vous qui aviez écouté cet opus.
Oui, Rodolphe. Absolument.
A cappella.
Un disque très étonnant publié par le label Mirare au moment de la folle journée de Nantes. Il est 9h51. Je veux prendre de vos nouvelles. Tenez, à cette heure-là, Émilie, comment allez-vous?
Écoutez, je me sens très bien.
C'est vrai?
Je sais pas.
Eh ben, vous allez aller encore mieux.
Vous pensez, non, vous allez me redonner le. J'ai un
le
petit
punch.
Fond de mauvaise humeur de moi.
Écoutez, j'ai pour vous un très beau disque. C'est notre disque du jour. Je suis sûr qu'il va vous plaire.
France Musique, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Thank you.
et c'est très bien joué. C'est l'intégrale des 6 sonates d'Isaïe pour violon. Et au violon, c'est Sergueï Khatchatryan, superbe violoniste. On l'aime beaucoup dans cette émission. Il a 38 ans. On l'a découvert parce qu'il avait gagné le concours Sibelius en 2000, le Reine Elisabeth en 2005. Et depuis, il nous a donné pas tant de disques que ça, hein. C'est un disque de temps en temps et souvent un très beau disque. Et ici, il s'intéresse donc aux sonates d'Eugène Isaïe. Et la particularité de ce disque, c'est qu'il joue le violon d'Eugène Isaïe, un violon qui a appartenu pendant longtemps à Isaac Stern. Et puis une banque japonaise l'a racheté en 1995 et l'a prêté en ce moment à Sergueï Khatchatryan pour ce projet autour des sonates d'Isaïe. Alors il y a toute une description dans le livret de ce disque sur ce violon. Il a une petite fêlure, enfin, vous savez tout sur son bois, sa couleur. Et son son, surtout, vous l'entendez grâce à ce disque et à ses 6 sonates. Disque du jour sur France Musique, vous pouvez le réécouter et le podcaster. Première sonate d'Isaïe, magnifiquement jouée par Sergueï Khatchatryan. C'est notre disque du jour sur France Musique. Vous pouvez le réécouter, le podcaster. Et je peux vous dire que je vous en rediffuserai un petit extrait prochainement.
D'un musicien qu'on aime beaucoup à un autre, le chef Riccardo Minasi. Je sais que vous aussi, vous partagez mon enthousiasme. Absolument. Pour cet Italien qui a souvent une version assez radicale et passionnante des œuvres du grand répertoire. Ici, il est avec l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg et l'orchestre avait fait appel à lui en 2020-2021 pour un concert autour de Strauss, mais ça a été annulé à cause du Covid. Et donc, à la place, ils ont décidé d'enregistrer ensemble pour un effectif restreint, vu les conditions sanitaires de l'époque. Et ils ont choisi les Métamorphoses de Strauss, 23 cordes et la première sonatine pour instrument avant. qui regroupe 16 instrumentistes. Alors, ce sont deux pièces écrites pendant la guerre, en 1943 et 1945, complètement différentes, puisque les métamorphoses portent l'angoisse de la guerre, œuvre de résignation et de tristesse après la dévastation d'une partie de l'Allemagne. Et puis, la première sonate, en revanche, la sonatine, regarde vers le passé et déploie trois mouvements avec une atmosphère assez tendre, romantique et douce. Assez étonnant, d'ailleurs, quand on écoute cette œuvre, vu la période où elle a été composée. Tout le contraire des métamorphoses. Et on va écouter donc le deuxième mouvement de la sonatine.
Thank you.
La première sonatine pour instrument à vent de Richard Strauss par le Mozarteum de Salzbourg, dirigé par Riccardo Minasi, ce chef italien qui était directeur musical de l'ensemble salzbourgeois pendant quelques années. Et il y a un autre ensemble qu'il dirige depuis longtemps, c'est l'ensemble Résonance. C'est une formation qu'on aime particulièrement aussi parce que je vous disais qu'il avait souvent une lecture assez radicale des chefs-d'œuvre du répertoire. Et c'est le cas avec cet orchestre. Il revisite souvent les grands classiques.
Et il a quel âge,
Riccardo ? Il est né en 78. Donc, quand même, un jeune chef. Ouais, absolument. Alors, on va revenir sur un disque enregistré et sorti la saison dernière. Il a enregistré les symphonies de Mozart, ici la 38e. Riccardo Minasi et son ensemble Résonance. C'était la 38e symphonie de Mozart, cet orchestre qu'il dirige donc depuis maintenant un moment, avec qui il nous offre de très beaux opus.
France Musique.
Le disque s'appelle Origine et c'est un ensemble de voix, les itinérantes. Et il y a beaucoup de musique traditionnelle des États-Unis, d'Écosse, de Géorgie, de Suède, de Bretagne.
Et c'est justement le folklore qui nous intéresse pour ce disque que vous entendez derrière nous. Quel compositeur utilise le folklore de son pays pour irriguer ses partitions ? Quel compositeur utilise le folklore de son pays pour irriguer ses partitions ? S'agit-il de Berlioz, de Strauss ou de Bartok ? Berlioz, Strauss ou Bartok ? Votre réponse, francemusique.fr à l'émission En Piste.
Oh,
Deux mélodies traditionnelles, d'Écosse tout d'abord et de Géorgie ensuite. C'est le disque origine de l'ensemble Les Itinérantes qu'on vous offrait aujourd'hui et il fallait répondre.
Bartok pour la Hongrie. Il n'y avait pas un traditionnel hongrois dans ce disque?
Non,
j'ai choisi le seul compositeur qui n'apparaît pas.
Je suis désolée, il y a l'Estonie, il y a l'Angleterre, il y a la Lituanie, mais...
Il y a l'Irlande, je me souviens.
Il y a l'Irlande, absolument.
Bon, bah, tant pis, mais Bartok a utilisé beaucoup le folklore de son pays pour irriguer ses partitions.
Merci à notre équipe d'aujourd'hui, Alex Otinois, Léa Gramusset et Karine David.
À réécouter sur francemusique.fr.